L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monique Chalbi, qui vient au nom de la FPS, l'Association France-Palestine Solidarité, et aussi de Coup de Soleil, nous parler d'un ouvrage de Jean-Paul Chagnolo, qui sera reçu justement vendredi prochain, et dont le sujet de conférence est Israël-Palestine, la défaite du vainqueur.
C'est mercredi, pardon. C'est le 22.
C'est le jeudi.
C'est le 22.
Oui, c'est le 22.
Le 22 à Montpellier, le 23 à Pézenas.
Pézenas, voilà. Alors, c'est un livre qui vient de paraître.
Oui, chez Actes Sud, ça s'appelle Israël-Palestine, donc la défaite du vainqueur. Jean-Paul Chagnolo, c'est le directeur de l'IREMO. C'est un professeur émérite des universités. Il est également président de la revue Confluence Méditerranéenne. Et depuis cette année, l'IREMO est partenaire de Coup de Soleil pour le Maghreb des Livres, qui est devenu le Maghreb et Orient des Livres.
Ah oui, vous y étiez il y a peu de temps encore.
Début février, tout à fait.
Et donc, Jean-Paul Chagnolo était présent, bien sûr.
Bien sûr, il venait signer ce livre, justement, entre autres.
Alors,
il venait aussi
vient
en tant
parler,
que directeur de l'IREMO.
Il vient parler de ce livre dont le sujet est Jérusalem.
Et la Palestine en général. Il y a un chapitre sur Jérusalem, mais il y a aussi un chapitre sur l'ensemble de la Palestine. Et ça commence au début au moment où Israël a été créé, et ça va jusqu'à nos jours. Donc il y a 5 chapitres différents. Je vais vous donner les titres des chapitres. Le premier, c'est l'obsession de la force. Le second, c'est tuer d'abord, négocier ensuite, tout un programme. Le troisième, c'est à droite toute. Ensuite, il y a Jérusalem et l'instrumentalisation du sacré. Et le dernier chapitre, tout a commencé le septième jour. Donc ça, je peux vous expliquer ça au fur et à mesure.
Oui, en effet, ce sont des titres vraiment de chapitres qui, on voit bien dans quel sens nous allons étudier la question. Voilà. C'est-à-dire de plus en plus une situation tendue.
Tout à fait. Et puis le problème, et il en parle dans son livre, le problème c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les problèmes mondiaux, le Yémen, la Syrie qui depuis 7 ans passés souffre d'une guerre civile, toutes les situations aux alentours, il y a eu aussi ce qu'on a appelé les printemps arabes, ça a mis l'accent sur ces pays-là et on a presque oublié que la Palestine continue à souffrir. Ça fait 70 ans que les Palestiniens souffrent. La situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire, elle empire. Mais c'est devenu un sujet de second plan à cause des autres sujets brûlants. Donc, le livre parle des confrontations qu'il y a eu depuis 67, mais il parle également de la guerre, la seule guerre qui a été faite par les pays arabes alentour pour empêcher l'installation d'Israël. Qui s'est terminé sans grand succès ni pour les uns ni pour les autres, mais qui a permis quand même l'installation d'Israël. Ensuite, il y a eu la guerre des six jours, pendant laquelle les Israéliens ont réussi à prendre le Sinaï et le Golan, qu'ils ont finalement rendu, en tout cas en partie, pour ce qui est du Golan, en 73, quand il y a eu l'attaque de Yom Kippour, pardon. Il y a eu aussi les attentats de Munich. Et donc, c'est là que l'Égypte a repris le Sinaï et la Syrie, une partie du Golan. Il y a eu les accords d'Israël et des pays arabes en 1979, ce qui a fait que les Palestiniens se sont retrouvés finalement tout seuls. Et donc, tout ça, on le retrouve dans le livre. Jean-Paul Chagnolo insiste aussi sur l'importance du vocabulaire. Le Palestinien n'existe pas, il est juste l'autre. Et son humanité est donc niée. En plus, un Palestinien égale un terroriste. Donc ça justifie finalement tous les actes. les emprisonnements d'enfants, les destructions
de maisons,
les assassinats, les murs, les checkpoints, les humiliations permanentes. Tout ça s'est expliqué parce que Israël dit toujours qu'il préfère attaquer avant qu'on l'attaque. Donc il suppose qu'il va être attaqué, ce qui justifie les attaques. C'est ce qui a engendré malheureusement des intifadas très sanglantes, où il y a eu des Palestiniens qui ont fait des attentats suicides. Il y a eu beaucoup de morts des deux côtés.
Il y a la situation de Gaza aussi qui s'éternise avec un blocus.
Qui est de plus en plus dramatique et où il y a des bombardements quasi tous les jours. On a parlé de ce qui s'était passé en 2014, où il y a eu 2000 morts, dont un quart d'enfants à peu près. Mais les bombardements continuent. Et Gaza est toujours en ruine. Il manque d'eau, il manque d'électricité, il manque de tout. Et ils sont en prison, quoi. Il y a des gens qui, depuis qu'ils sont tout petits, ont vécu dans des camps à Gaza. Donc, c'est-à-dire, Gaza est déjà tout petit, mais dans Gaza, il y a des camps où les gens dont les gens ne peuvent pas sortir. Donc, il y a aussi eu des attentats ciblés sur place ou même à l'étranger. Il y a eu... tous les Palestiniens étant des terroristes... le gouvernement actuel d'Israël justifie absolument tous ses actes. Il y a aussi, on l'a vu, une droitisation. Au début, il y avait à peu près un équilibre entre les travaillistes et puis la droite. Et puis depuis l'échec du camp David, la gauche s'est largement affaiblie. En 2015, le gouvernement a commencé à compter des extrémistes. 2015, donc c'est sous Netanyahou, bien sûr. De quoi je peux parler encore? Oui, alors, on va parler de Jérusalem, puisque en ce moment, c'est un sujet qui est assez brûlant, puisque Trump a décidé que Jérusalem serait la capitale d'Israël. C'est déjà un vœu de Netanyahou en 95, il voulait un grand Jérusalem. Mais son grand Jérusalem, ça comprenait la ville elle-même, mais également prenait Bethléem, ça prenait Ramallah, Jéricho et tous les petits villages qui sont autour. Le principe de colonisation et les décisions du gouvernement, c'est de fragmenter au maximum les maisons, les quartiers, les villages des Palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a eu un mur qui a été construit en 2003. Ce mur sépare parfois les maisons de Palestiniens de leurs voisins d'hier. Il y a des trams et des routes qui ont été construites parce que c'est un peu pour installer déjà une Jérusalem qui sera entièrement juive. Il y a des maisons juives qui sont de plus en plus à l'intérieur de Jérusalem-Est. On réquisitionne des maisons qui appartenaient à des Palestiniens. Nous, ça nous est arrivé en 2013 de voir effectivement les meubles d'une maison sur le trottoir, une famille israélienne s'installer à la place des Palestiniens qui y vivaient jusque-là. On a vu aussi une autre maison devant laquelle il y avait un jeune israélien qui empêchait les gens de venir. Cette maison était déjà réquisitionnée pour une famille israélienne et derrière, l'autre partie de la maison était encore habitée par une dame qui avait plus de 80 ans, qui avait déjà dû quitter Haïfa en 48 et qui se retrouvait au bord de l'expulsion pour la deuxième fois de sa vie à son âge. Et donc voilà, il y a 12 colonies actuellement dans Jérusalem Est, donc la partie qui appartient aux Palestiniens. Il y a quasi plus de permis de construire. Il n'y a donc pas d'électricité, pas d'eau, pas d'école, pas de commerce. Tout est étudié pour décourager les Palestiniens de rester. Sauf que les Palestiniens sont des grands résistants et que quoi qu'on leur fasse, ils n'ont vraiment pas envie de quitter leur pays, ils s'accrochent. D'ailleurs, il y a de plus en plus de... Alors, la population est de plus en plus nombreuse sur un tout petit espace, mais ils sont assez nombreux et ils veulent résister. Il faut savoir que les Palestiniens qui vivent à Jérusalem sont possesseurs d'une carte bleue, qui est une carte d'identité. Les autres de Cisjordanie ont une carte verte. Et cette carte bleue donne des devoirs plus que des droits et des interdictions. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite Jérusalem, s'il en sort, il y a un couvre-feu, donc il faut qu'il soit rentré à telle heure. S'il va vivre quelque temps dans de la famille en dehors de Jérusalem, il peut se faire reprendre
interdire,
cette carte.
Oui.
Les mariages entre les Palestiniens qui vivent à Jérusalem et qui vivent à l'extérieur sont très découragés parce que c'est quasi impossible. Moi, j'ai rencontré une femme qui venait de Bethléem. Bethléem, c'est à peu près 6 km de Jérusalem. Et elle m'expliquait qu'elle avait épousé donc un mari de Jérusalem et que pendant les 6 premières années de leur mariage, elle n'a pas pu retourner chez elle, dans sa famille, que sa famille n'a pas pu venir et que finalement, au bout de 6 ans, elle a réussi à venir et à montrer ses petits-enfants à leurs grands-parents qui n'avaient pas eu le droit de les voir. Donc, c'est un quotidien qui est épouvantable. Il y a des checkpoints partout, il y a des contrôles partout. Et le but vraiment d'Israël, c'est que Jérusalem devienne uniquement juive et donc si Jérusalem est entièrement juive, la solution à deux États est définitivement impossible. Il faut vraiment que Jérusalem reste
international
pour que ça arrive. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a effectivement les Juifs, il y a les Palestiniens, Palestiniens musulmans, des Palestiniens chrétiens, mais il y a aussi des chrétiens non musulmans qui vivent à... C'est la ville de Jérusalem, c'est la ville où il y a toutes les religions. Donc, les Palestiniens résistent beaucoup par la démographie. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans les familles palestiniennes. Et ce qui fait que finalement, au lieu qu'il y ait de moins en moins de Palestiniens, ben finalement, la proportion est grandissante. Donc, la décision de M. Trump de faire de Jérusalem la capitale unique d'Israël est une bombe, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'intolérable et de dangereux. Bon, ceci dit, un jour il dit une chose, le lendemain il en dit une autre. On ne sait pas trop où ça va aller.
Oui, en effet, alors vous avez apporté de la musique.
Alors, j'ai apporté un CD du groupe Joubran qui s'appelle Asfar. Asfar, en arabe, ça veut dire voyage, mais en anglais, ça veut dire aussi loin. Donc, il y a un jeu de mots sur ce nom, et c'est le premier morceau qui va être joué, qui s'appelle Nawar, ce qui veut dire bourgeon.
Écoutons. Alors, nous parlions de Jérusalem et justement, le Parlement israélien légalise en quelque sorte l'expulsion des Palestiniens de Jérusalem pour motifs politiques, puisque le 7 mars 2018, la Knesset a adopté un amendement à la loi d'entrée en Israël permettant au ministre israélien de l'Intérieur de révoquer le statut de résident permanent des Palestiniens de Jérusalem pour rupture de loyauté envers l'État d'Israël.
Ça finalement, ça officialise quelque chose qui est déjà presque... c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir une carte bleue, c'était pas quelque chose de définitif, on peut être évoqué. Donc il y en a eu déjà pas mal qui l'ont été. Là, c'est quelque chose de plus général et de plus officiel, mais bon, c'est une décision qui est sous-jacente depuis des années. Il y a aussi le fait que, je parlais tout à l'heure d'attaquer les terroristes, puisque effectivement c'est le terme que l'on emploie pour les Palestiniens, mais il y a aussi, malheureusement, en France, on entend aussi ce discours, le fait qu'on dise, oui, mais les Palestiniens, souvent ils sont tués ou blessés, ou si leurs maisons sont attaquées, c'est parce que eux-mêmes se servent de leur population comme bouclier. Il faut savoir qu'à Gaza, il y a une démographie, c'est la plus grande démographie qu'il y a au monde, les gens sont les uns sur les autres, donc effectivement... Parfois, quand le Hamas cache des armes, ça peut être dans une zone de civils. Mais il ne faut pas penser que c'est uniquement ça et que ce sont les Palestiniens qui sont responsables de leur propre situation.
Oui. Catastrophique.
Mais ça fonctionne très bien pendant la guerre de 2014. Ça a été répété par les médias, par les journaux, que finalement, c'était le Hamas qui était le premier assassin des Palestiniens. Et ça aide beaucoup Israël de divulguer ce genre de messages.
Alors là, quand même, c'est dire que ceux qui sont occupés doivent être loyaux pour les occupants.
Alors, voilà, c'est à peu près ça. Il y a, comment il s'appelle ?
Or, la population d'un territoire occupé n'a pas de devoir d'allégeance vis-à-vis de l'occupant.
Non, tout à fait. Ben, ça, c'est la quatrième convention de Genève. C'est complètement contraire à la quatrième convention de Genève. Et puis, il y a aussi une date qui est importante. Je parlais tout à l'heure de la guerre des six jours. Et la guerre des six jours, donc, ça a été pendant six jours une guerre défensive. Et puis, le septième a commencé une guerre de conquête. Ça, c'est Leibovitz qui disait ça, qu'on a appelé le grand indigné israélien, le prophète de la colère. Effectivement, à partir de la fin de cette guerre éclair, c'est là que la colonisation a vraiment pris un sens important et où ça s'est multiplié.
Alors, vous avez mené une action sur les banques.
On est en train en ce moment de mener une action sur les banques. Vous avez entendu tous parler du mouvement international qui s'appelle BDS. Dans ce mouvement, il y a trois lettres. B, boycott. On a déjà fait des opérations de boycott. D, c'est désinvestissement. Et S, c'est sanctions. Et donc là, pour les banques, c'est plutôt dans le cadre de désinvestissement. Et donc, il s'agit de banques et d'assurances françaises. Il y a la BNP Paribas, Natixis, la Société Générale, le Crédit Lyonnais et AXA, qui financent l'IEC, qui est le Israel Electric Corporation. Et bien que ces établissements aient adhéré à des engagements au profit des droits humains, et bien la pratique ne suit pas. D'autres banques étrangères, par contre, ont cessé de collaborer avec la colonisation. Donc nous voudrions que la France fasse la même chose. On demande à l'État d'intervenir. On a donc fait une première action devant une banque à la Comédie, mercredi dernier. Nous envoyons aussi des lettres aux élus pour les tenir informés et aux actionnaires des banques et des assurances en question.
Oui, il faut dire que vous prévenez aussi la banque que...
Tout à fait, oui.
De votre action.
De notre action et des raisons de notre action, tout à fait. Donc, on avait déjà fait des actions comme ça pour Orange, qui finalement est partie des territoires occupés, et on avait fait ça aussi avec Veolia. Donc toutes les entreprises qui travaillent pour aider la colonisation... Nous les boycottons et nous essayons de prévenir la population de ce qu'elles représentent et de ce qu'elles font là-bas.
Alors, vous étiez donc justement au Maghreb maintenant, de Maghreb des livres et Maghreb Orient des livres. Est-ce que depuis, il y aura quelque chose qui se passera sur le plan de la Comédie du Livre?
Alors, la Comédie du Livre, cette année, ce sont les Pays-Bas. Je crois qu'il y a 2 ou 3 auteurs du Maghreb qui seront là. Bon, il y aura toujours Chèvrefeuille étoilée, donc il y a de fortes chances qu'il y ait Maïs Abbé, qui est une écrivaine algérienne que l'on voit souvent et qui est une des membres de Chèvrefeuille étoilée. Il y a Fouad Laroui qui est invité en tant que néerlandais. Donc Fouad Laroui, c'est un écrivain marocain, mais qui est professeur de français à l'université d'Amsterdam et qui écrit des poèmes en néerlandais. Donc ce sont les deux personnes dont j'ai les noms, mais sans doute je n'ai pas encore eu le temps de bien éplucher tout ce qui vient dans la Comédie du Livre.
Mais en ce moment, vous faites la promotion d'un livre, Au cœur de l'errance.
Oui, ça,
dont on a déjà parlé un peu.
C'est avec Coup de Soleil National, d'ailleurs, puisque la préface est de Georges Morin, qui est le président national de Coup de Soleil. Au cœur de l'errance, c'est un livre qui a été imaginé pour aider SOS Méditerranée, et notamment le bateau L'Aquarius, qui a besoin de 11 000 euros par jour pour pouvoir continuer sa mission de sauvetage en mer.
Il y a une cinquantaine d'auteurs.
55 auteurs ont répondu présents. Donc, il y a des auteurs qui nous ont donné des textes inédits, d'autres qui nous ont donné des extraits de livres ou des poèmes. On a une chanson de Magid Cherfi. On a aussi des articles de journaux d'auteurs. Donc, il y a beaucoup de pays représentés. Il y a 4 des pays du Maghreb, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il y a le Mali aussi, il y a Patrick Chamoiseau qui est français mais qui vient de Martinique, il y a Haïti, Mackenzie Orsel, il y a Eric Deluca, il y a une Belge, enfin il y a des gens
d'un
peu partout.
Belle brochette d'auteurs.
Voilà, et puis nous avons 14 illustrateurs également, et la couverture est un dessin de Titouan Lamazou. Donc, c'est vendu au prix de 19 euros et tous les bénéfices. Donc, une fois qu'on a payé l'imprimeur, Chèvrefeuille étoilée s'est chargé de donner tout ce qui était bénéfice directement à SOS Méditerranée.
Donc, on peut s'adresser à Coup de Soleil pour...
On peut s'adresser à Coup de Soleil ou à Chèvrefeuille étoilée.
Oui. C'est en vente en ce moment.
C'est en vente au Grain des Mots, je crois. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit, donc je pense que c'est bon. Chez Soramps, c'est mis en bonne place, d'ailleurs. Et puis la FNAC m'avait dit aussi qu'il l'avait commandé. Je pense que Gibert doit l'avoir commandé aussi. Et sinon, ben, si vous êtes de temps en temps au Dôme, on peut en trouver au Dôme aussi.
Ah bon, très bien. Alors, on va écouter une deuxième musique.
Bon, une... suivante, du même.
Alors, nous revenons au calendrier, puisque Jean-Paul Chanoulo sera jeudi 22 mars à 18h30 à l'espace Martin Luther King pour parler de ce livre que nous venons de présenter, Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, point d'interrogation. Et également, il sera...
Je ne sais pas si lui, il a mis un point d'interrogation. Je pense que c'est une certitude à ça.
Voilà, alors. et également, il sera à Pézenas le vendredi 23 mars à 20h30 au théâtre de Pézenas, rue Henri Reboul. avec, en partenariat donc avec l'association France-Palestine Solidarité et Coup de Soleil et Méditerranée Vivante de Pézenas. Alors retenez bien ces deux rendez-vous et je passe au calendrier plutôt régional, puisque jeudi 22 mars, c'est l'AG d'Occitanie Coopération qui se passera au domaine de l'Olivette de l'Angèle à Amissan, près de Narbonne. Et cette journée commencera à 9h30 jusqu'à 18h. Et il y aura bien sûr un exposé à 10h sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, une ambition collective pour l'Occitanie. Donc vous pouvez vous adresser à Occitanie Coopération. Également, il y aura le lancement de l'appel à projet 2018, aide au co-développement international de la région Occitanie dans le cadre des 17 objectifs du développement durable. La date limite de dépôt des dossiers par les associations de solidarité internationale est le 15 avril. Vous pouvez vous renseigner au 05 32 26 26 73 ou bien à équipe@oc-coopération.org. Également, donc, c'est la semaine alternative aux pesticides du 14 au 31 mars, donc ça a déjà commencé. C'est organisé par Génération Future, le réseau des semeurs de jardins, la fabrique citoyenne du Pays de l'Or. Vous pouvez vous renseigner au 06 68 67 81 17 ou bien sur Facebook au réseau des semeurs de jardins. Il y a évidemment plusieurs opérations prévues pour cette semaine, même ça dépasse de beaucoup la semaine, je pense, puisque dès le 19 mars, donc aujourd'hui à 18h, à l'enclos de la Croix à Lansargues, à la salle de l'Oliveraie, c'est une table ronde professionnelle, changer d'agriculture, comment accompagner la transition, avec des intervenants, Pierre Deltour de Nature et Progrès, Isabelle Touzard, qui est maire de Murviel-les-Montpellier, et c'est organisé par la Fabrique citoyenne du Pays de l'Or. Le 20 mars, c'est à 19h30 à Boggio, c'est du théâtre, le péché eugémique de la compagnie Théâtre Pêle-Mêle, un spectacle tout public citoyen et décapant, donc suivi d'un débat avec Robert Alibrac de la Perrière, conseiller en gestion des ressources génétiques des plantes et coordinateur de l'association BD. Et puis, du 21 mars jusqu'au 25 mars, tout un programme, donc, vous pouvez vous renseigner, comme je l'ai dit, auprès du réseau Semeur de Jardin, au 06 68 67 81 17, ou bien sur leur site, bien sûr, sur Facebook. Alors, je passe à d'autres calendriers encore. Il y a beaucoup de choses, vraiment. Demain, mardi 20 mars, de 12 à 14 heures à l'espace Martin Luther King, c'est le café actualité du Centre Documentation Tiers-Monde. 5 ans après Rana Plaza, quelles avancées pour les multinationales au Bangladesh, en France et dans le monde, avec Pierre Bourguet du collectif de l'éthique sur l'étiquette et Claude Borange également de ce même collectif. Et puis je rappelle que le lendemain, mercredi 21 mars, eh bien c'est le concert de soutien à FM+, à 19h, au Rockstore, rue de Verdun. Donc venez nombreux. Les braderies d'espoir pour un enfant ont repris. Et vendredi 23 et samedi 24 mars, c'est à Poussan qu'aura lieu la prochaine de 9h à 18h en continu. Enfin, le premier festival 1 million d'arbres a commencé. Il y aura une conférence le 21 mars à la salle Pagési, Les arbres et la vie. À 19h, ouverture des portes au public, et à 20h, une conférence table ronde avec Francis Allais, docteur en biologie et en botanique, spécialisé en écologie des forêts tropicales humides et en architecture des arbres, auteur de nombreuses publications, dont 30 ans d'exploration des canopées forestières tropicales. Christian Allier, défense des forêts tropicales, il se dit un Africain blanc. Il est passionné par la flore et la flore, il a vécu dans la forêt tropicale, et il est auteur de La parole de l'arbre. Yves Daricot, ingénieur agronome, apiculteur, auteur de Planter des arbres pour les abeilles. Christine Munoz, scientifique, qui traitera de l'arbre en ville. Et Henri de Verbizier, élu de la ville en charge des espaces verts, qui clôturera la conférence. Ce festival, Un million d'arbres, vous invite aussi le samedi 24 mars à 20h à la salle Pétrarque de Place Pétrarque et à écouter un concert a cappella avec Jean-Paul Wabotaille, Irénée Dombouet qui comptera, Jean Tricot et le groupe vocal Tanzetan, Joël Rino et la chorale Gospel Soul Mascor. L'entrée est gratuite. Vous pouvez vous renseigner, bien sûr, à www.festivalunmilliondarbres.com ou au 06 61 63 29 53. Enfin, beaucoup de cinéma également. Mercredi 21 mars au cinéma Utopia, projection de Merbi, un film de Ousmane William Baye, Sénégal-France 2008, sur la vie d'Annette Mbaye d'Erneville, journaliste pionnière et anticonformiste, militante de la première heure pour la cause de l'émancipation des femmes. C'est organisé par les rencontres ethno et cinéma et la semaine de la francophonie. Jeudi 22 mars à 20h, c'est les Amis du monde diplomatique qui vous invitent à la salle Guillaume de Nogaret à une conférence « Passé, présent et complexité de la révolution en Catalogne ». C'est à 20h. Et le vendredi... Voilà, oui, le vendredi 23 mars, c'est à Utopia, après l'ombre, un document dont est partenaire le Secours catholique. La projection est en avant-première, en présence de la réalisatrice Stéphane Mercurio, donc vendredi 23 mars à 20h à Utopia. À bientôt, chers auditeurs.
Bonne journée.